Vous écoutez, on lit pour vous.
Personne proche aidante, au-delà des idées préconçues. Un texte commandité paru le 18 octobre 2025 dans la presse. Elles sont environ 1,5 million d'un bout à l'autre du Québec, mais plusieurs ignorent qu'elles en font partie. Les personnes proches aidantes. Celles-ci jouent pourtant un rôle essentiel au sein de la société québécoise au grand complet. Qui sont donc ces personnes, de tous les âges et de tous les horizons, qui endossent ces responsabilités en plus des autres chapeaux qu'elles portent dans leur vie? Mythe. Les personnes proches aidantes sont des membres de la famille. L'idée selon laquelle une personne proche aidante et la personne aidée doivent être liées soit par des liens familiaux, soit par une union, est très répandue. Pourtant, les personnes proches aidantes ne sont pas toujours des membres de la famille. Il s'agit parfois d'un ami, d'un voisin, d'un collègue. La personne proche aidante apporte son soutien à une personne de son entourage qui vit avec une incapacité temporaire ou permanente. Cette dernière peut être de nature physique, psychologique, psychosociale ou autre. La personne proche aidante et la personne aidée partagent un lien affectif, qu'il soit familial ou non. Les personnes proches aidantes peuvent aussi être des parents, des amis, de jeunes adultes, des conjoints, des étudiants, des travailleurs, des retraités. En plus de ce rôle qui les définit, ces citoyens et citoyennes assument des responsabilités additionnelles, parfois sans même en prendre pleinement conscience. La contribution qu'accomplissent les personnes proches aidantes est pourtant essentielle à notre société. Bon à savoir. Les personnes aidées ne sont pas seulement des aînés. L'incapacité peut en effet arriver à différents stades de la vie et pour plusieurs raisons. Handicap, maladies graves, dépression, accidents, cancers, etc. On estime tout de même que le vieillissement de la population entraînera une croissance des situations de proche aidance dans le futur. Mythe. On n'est pas la personne proche aidante de son enfant puisque c'est le rôle attendu d'un parent. De nombreuses personnes proches aidantes ont du mal à se reconnaître comme telles. Par exemple, les parents qui accompagnent leur enfant vivant avec une incapacité trouvent généralement naturel de jouer ce rôle. Pourtant, qu'ils offrent un soutien occasionnel ou continu et que leur enfant vive avec un handicap, un trouble de santé mentale ou une maladie, ces parents sont bel et bien en situation de proche aidance. Mythe. Il y a peu de ressources et de services d'aide pour les personnes proches aidantes. Dans toutes les régions du Québec, des organismes communautaires sont présents pour soutenir les personnes proches aidantes dans leur parcours. Et parce que chaque situation, chaque histoire est différente, certains de ces services s'adressent à des clientèles spécifiques. Ils répondent ainsi aux besoins particuliers des personnes proches aidantes. Par exemple, certaines ressources sont spécialement adaptées aux personnes proches aidantes de personnes vivant avec des limitations fonctionnelles, des dépendances, un trouble du spectre de l'autisme, la maladie d'Alzheimer, des douleurs chroniques, un trouble de santé mentale, etc. Mythe. Les personnes proches aidantes sont invincibles. La majorité des personnes proches aidantes trouvent ce rôle gratifiant. Néanmoins, celui-ci peut avoir des répercussions considérables sur leur vie ainsi que sur leur santé physique et mentale. Certaines de ces personnes ont besoin d'aide pour concilier cette réalité avec leur vie professionnelle ou leurs études, tandis que d'autres souhaiteraient avoir du soutien pour assumer leurs responsabilités familiales ou alléger le fardeau financier de la proche aidance. C'est pourquoi les ressources à leur portée sont de nature différente. Services de répit, aide à domicile, groupe d'entraide, soutien psychosocial, conseil juridique, formation, transport, etc. Quelques-unes des ressources offertes. Service info-aidant de l'appui. FO Aidant est un service téléphonique professionnel, confidentiel et gratuit, disponible tous les jours de 8h à 20h. Ce service s'adresse entre autres aux personnes aidantes et à leur entourage par téléphone au 1-855-852-7784, par clavardage ou par courriel. Répertoire des ressources de l'appui. Le répertoire des ressources vous aide à trouver du soutien dans votre région par l'entremise d'organismes communautaires de proximité en faisant des recherches soit par code postal, soit par type de service. Proche aidance Québec. Ce regroupement réunit des organismes communautaires qui soutiennent les personnes proches aidantes. Ceux-ci ont pour mission d'améliorer les conditions de vie des personnes proches aidantes en soulageant l'appauvrissement et l'épuisement qu'elles vivent. Confédération des associations de proches, CAP, en santé mentale du Québec. CAP Santé mentale aide à accompagner un ou une proche vivant des troubles de santé mentale, que ce soit dans un contexte d'urgence ou pour répondre à un besoin d'information ou de soutien. C'était « Personnes proches aidantes, au-delà des idées préconçues », un texte commandité paru le 18 octobre 2025 dans La Presse.
La grenouille qui gèle et ressuscite. Un texte paru le 8 octobre 2024 dans le magazine Québec Science. Un animal capable de se transformer en glaçon vivant pendant des mois, puis de revenir à la vie comme si de rien n'était? Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité de la grenouille des bois. On sait à quel point le froid extrême peut être dangereux. La grenouille des bois, petit amphibien de 5 à 7 cm vivant au Canada et au nord des États-Unis, incluant l'Alaska, possède une capacité extraordinaire. Elle peut geler pendant l'hiver, puis ressusciter au printemps. Reconnaissable à sa tache brune formant un masque autour des yeux, elle a développé une stratégie de survie unique face au froid extrême. Lorsque les températures chutent, des mécanismes complexes se mettent en place dans le corps de la grenouille. L'eau se concentre dans son abdomen, son cœur, ses poumons et son cerveau gèlent. Jusqu'à 65 % de l'eau contenue dans son organisme peut geler. Au printemps, l'animal dégèle progressivement, son cœur repart, la circulation reprend et la grenouille retrouve sa vie normale. Quel est le secret de sa survie? La grenouille des bois produit deux cryoprotecteurs naturels pour éviter que l'eau gelée, en prenant de l'expansion, ne fasse éclater ses organes et ses vaisseaux sanguins. À l'approche de l'hiver, la grenouille mange beaucoup et stocke du glucose dans son foie qui augmente de taille. Quand le gel arrive, le foie libère ce glucose dans les cellules. En parallèle, la grenouille cesse d'uriner lorsqu'elle entre dans sa phase de sommeil. L'urée s'accumule dans ses tissus, empêchant la formation de cristaux de glace à l'intérieur des cellules. Ces deux substances agissent comme des antigels naturels, maintenant l'intérieur des cellules dans un état visqueux plutôt que solide. Ce phénomène extraordinaire suscite un grand intérêt en médecine. Les scientifiques cherchent à comprendre comment le corps de l'animal peut être si peu affecté par une si grande concentration de sucre et d'urée qui serait toxique pour les humains. La capacité d'adaptation de la grenouille des bois pourrait inspirer de nouvelles techniques de conservation pour les transplantations d'organes. C'était « La grenouille qui gèle et ressuscite », un texte paru le 8 octobre 2024 dans le magazine Québec Science.
Les Québécois jettent du plastique et d'autres matières recyclables dans la nature. Un texte d'Alexandre Shields paru le 10 mars 2026 dans Le Devoir. Quoi retenir? Une étude de Recycle Québec révèle que 87 % des déchets ramassés le long des autoroutes sont recyclables, majoritairement des plastiques. Le plastique est aussi très présent parmi les déchets retrouvés sur les rives de cours d'eau. Près de 400 000 tonnes de matières recyclables provenant des collectes municipales sont envoyées au dépotoir chaque année. Même si les Québécois se disent préoccupés par l'environnement et l'importance du recyclage, ils continuent de jeter des quantités importantes de déchets par la fenêtre de leurs véhicules, mais aussi directement dans les cours d'eau, révèle une première étude de Recycle Québec dévoilée mardi le 10 mars 2026. Sondage après sondage, les Québécois affirment en grande majorité qu'ils recyclent les matières résiduelles qui peuvent être détournées des dépotoirs, mais aussi qu'ils sont sensibilisés aux impacts néfastes de la pollution. Or, un portrait inédit des déchets qui se retrouvent le long des autoroutes et sur les rives des cours d'eau des régions les plus peuplées de la province démontre que plusieurs personnes continuent de se débarrasser de leurs déchets, dont bon nombre de matières pourtant recyclables, directement dans la nature. Une étude réalisée par Recycle Québec, en collaboration avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable et Mission Milton, a ainsi permis de ramasser 4,3 tonnes de déchets le long des autoroutes 15, 20, 30, 40, 55 et 440 dans les municipalités de Laval, Drummondville, Beaumont, Montmagny, Sainte-Julie, Varennes, Yamachiche, Masquinongé et Trois-Rivières. L'analyse de ces déchets a permis de constater que 87 % des matières dénombrées étaient recyclables et que 54 % des matières étaient du plastique. Sans surprise, il s'agit essentiellement de plastique provenant de produits de consommation courante lorsqu'on est sur la route, soit des emballages, des contenants divers, des sacs, des bouteilles, etc. Les photos provenant du rapport publié par la Société d'État montrent beaucoup de contenants de cafés de commerce bien connus. Le plastique est également bien présent parmi les 2,5 tonnes de déchets retrouvés sur les rives de divers cours d'eau, dont le fleuve Saint-Laurent, la rivière Saint-François et la rivière Saint-Charles. Selon les données comptabilisées après analyse des déchets, 80 % des matières étaient recyclables et 44 % étaient du plastique. Vice-président Opérations et Développement chez Recycle Québec, Francis Vermette, constate sans détour qu'il y a encore beaucoup de matières jetées dans l'environnement, et ce, même si le recyclage est présent dans le quotidien des Québécois depuis plus de 35 ans. Selon lui, les solutions pour faire les choses autrement sont d'ailleurs très accessibles. Les résultats sont parlants. Le plastique est omniprésent et plusieurs autres matières trouvées pourraient être recyclées ou récupérées. Nous avons une responsabilité individuelle et collective de bien gérer nos déchets à la maison comme dans les lieux publics et à l'extérieur. Faisons ce pas important pour protéger nos milieux naturels et réduire la pression sur l'environnement, résume pour sa part Emmanuelle Guéhin, présidente directrice générale de Recycle Québec, dans une déclaration qui accompagne l'étude. Le recyclage au dépotoir. Au-delà des déchets et matières recyclables jetés directement dans la nature, les Québécois produisent en moyenne près de 1500 livres de déchets par habitant par année, selon le plus récent bilan officiel de Recycle Québec, soit celui de 2023. Le Québec est donc toujours loin de la cible de production de déchets par habitant, qui était de 525 kg annuellement en 2023. Année après année, les Québécois continuent d'ailleurs d'envoyer des centaines de milliers de tonnes de matières recyclables directement dans les dépotoirs de la province, selon ce qui se dégage des données officielles. En tenant compte de l'ensemble des secteurs, municipal, institutionnel, commercial et construction, on parle de 1,36 million de tonnes uniquement en 2023, le plus récent bilan disponible, dont 521 000 tonnes de papier et carton, 511 000 tonnes de plastique, 243 000 tonnes de métal et 82 000 tonnes de verre. Les quantités de verre, de métal et de plastique envoyées à l'enfouissement sont d'ailleurs en hausse depuis 2019. À titre d'exemple, sur les quelque 1,2 million de tonnes de matières recyclables qui auraient pu être récupérées par les collectes municipales en 2023, 34% ont plutôt été envoyées directement au dépotoir, soit environ 400 000 tonnes. Une fois au centre de tri, 28% des matières sont rejetées, entreposées ou non recyclées. Au bout du compte, ce sont donc 587 000 tonnes de matières qui sont par la suite acheminées pour être recyclées, soit 48% des matières qui pourraient être récupérées par les collectes municipales. Il s'agit d'un bilan semblable à celui de 2021, où le taux atteignait 47%. Ce taux est plus élevé pour le papier et le carton, 71%, mais nettement plus faible pour le plastique, 21%, et le verre, 23%. Par ailleurs, plus de 6 millions de tonnes de matières résiduelles ont été envoyées dans les dépotoirs en 2023, contre 6,2 millions en 2022 et 6,1 millions en 2021. Cela équivaut à près de 16 440 tonnes par jour. L'économie du Québec transgresse les limites planétaires. Notre modèle économique, linéaire, basé sur une surconsommation de ressources, transgresse les limites environnementales planétaires, constate un document publié en 2024 par Recycle Québec. Dans l'ensemble, le Québec est responsable d'une importante empreinte matérielle de 271 millions de tonnes de ressources par année, soit 32 tonnes par habitant, ce qui dépasse largement la moyenne à l'échelle mondiale. Cette réalité découle, selon l'étude, du fait que la province a un niveau de circularité relativement faible, puisqu'à peine 3,5% de l'économie est considérée comme circulaire, c'est-à-dire liée à un système de production et de consommation visant à optimiser l'utilisation des ressources à toutes les étapes du cycle de vie d'un bien ou d'un service. La moyenne mondiale est de 7,2%. À titre d'exemple, un Québécois moyen consomme plus de 570 litres d'eau potable par jour par rapport à 130 litres par jour en France, ce qui implique un dépassement de 86% des limites sécuritaires. C'était « Les Québécois jettent du plastique et d'autres matières recyclables dans la nature », un texte d'Alexandre Shields paru le 10 mars 2026 dans Le Devoir.
Est-il encore nécessaire d'apprendre une langue? Un texte de Jean-François Ouellette paru le 1er avril 2026 dans la presse. Le tollé provoqué par l'incapacité du PDG d'Air Canada à s'exprimer en français et qui, selon toute vraisemblance, a eu raison de la carrière de ce dernier au sein du transporteur, a relancé un débat prévisible mais pas inutile. On peut y voir une controverse de plus sur la place du français au Canada. On peut aussi s'en servir pour poser une question plus large et plus actuelle. À l'ère de l'intelligence artificielle, est-il encore nécessaire d'apprendre d'autres langues? Jean-François Ouellette est professeur à HEC Montréal et y réfléchit. Précisons-le d'emblée, il ne s'agit pas ici pour moi de faire le procès d'un individu. Même si, dans le cas précis d'Air Canada, le fait pour un grand dirigeant de ne pas pouvoir s'exprimer dans la langue d'environ 22% de la population canadienne et d'une part majeure de son marché québécois, alors même que son siège social est à Montréal, soulevait évidemment une question de jugement. Air Canada est soumise à la loi sur les langues officielles. Elle opère dans un pays officiellement bilingue. Et la sensibilité linguistique n'est ici ni marginale, ni folklorique. Mais le vrai intérêt de ce texte est ailleurs. Il est dans ce qu'il révèle sur notre rapport nouveau aux langues. Pendant longtemps, apprendre une autre langue servait d'abord à comprendre. Lire un contrat, vendre à l'étranger, négocier, voyager, faire des affaires. Or, cette fonction-là est en train d'être transformée à grande vitesse. Zoom offre déjà des sous-titres traduits en temps réel. Microsoft Teams propose maintenant de l'interprétation vocale en direct. Des outils comme HeyGen permettent de traduire des vidéos en conservant la voix, le ton et même une synchronisation labiale de plus en plus convaincante. Et d'autres, comme Owl, traduisent simultanément dans vos oreillettes les propos de vos interlocuteurs. Autrement dit, la technologie s'attaque désormais non seulement aux mots, mais aussi à l'illusion même de la proximité linguistique. Ce basculement est réel, et il faut le reconnaître. Oui, l'IA va rendre moins indispensable l'apprentissage d'une autre langue pour accéder à l'information brute. Oui, elle va aider des PME québécoises à exporter, à répondre à des clients étrangers, à produire du contenu multilingue et à tenir des réunions qu'elles n'auraient jamais pu tenir avec autant de fluidité auparavant. Sur ce plan, c'est une avancée formidable. Elle démocratise des possibilités autrefois réservées aux grandes entreprises. Entrer en relation. Mais c'est précisément ici qu'il faut éviter une confusion. Traduire n'est pas nécessairement entrer en relation. Je parle français, anglais, espagnol, je me débrouille en italien et en allemand et baragouine un peu de japonais. Au-delà d'une curiosité personnelle, j'ai réalisé tôt dans ma vie d'entrepreneur que le fait de pouvoir m'exprimer, même imparfaitement, dans la langue de mes interlocuteurs à l'étranger, me rapportait rarement seulement de la clarté. Cela m'achetait de l'empathie. Cela changeait le climat. Cela signalait un respect. Cela rendait la conversation moins transactionnelle et plus humaine. J'avais bien tracé la ligne aux Finnois, malgré des tractations avec Nokia, car il faut savoir reconnaître qu'il existe des limites à l'ambition linguistique. Mais partout ailleurs, cet effort m'a presque toujours aidé à bâtir quelque chose qu'aucun outil ne peut entièrement générer, la confiance. Car une langue n'est pas qu'un véhicule pour transmettre de l'information, c'est aussi un geste, une manière de dire à l'autre « je ne demande pas seulement que tu me comprennes, je fais aussi l'effort d'aller vers toi ». Et c'est précisément pour cela que l'affaire Air Canada est révélatrice. Car si parler la langue de l'autre est une manière d'aller vers lui, ne pas la parler au sommet dit aussi quelque chose. Les hauts dirigeants façonnent la culture de leur entreprise. Ils montrent par leurs priorités et leurs angles morts ce qui mérite une vraie attention et ce qui peut rester secondaire. Si le français semble accessoire en haut, il finira souvent par l'être aussi dans l'embauche, les promotions, le service et, au fond, dans la compréhension réelle d'un marché de plusieurs millions de Canadiens. Autrement dit, quand un PDG banalise même involontairement l'importance d'une langue, il risque de banaliser aussi, à travers toute l'entreprise, l'importance de ceux qui la parlent, les employés à l'interne autant que les clients à l'externe. Et pour tous les autres, non. Apprendre des langues ne sera plus aussi indispensable qu'avant pour simplement fonctionner dans le monde. Les machines vont continuer d'abaisser beaucoup de barrières. Mais non, cela ne rendra pas les langues inutiles non plus. Leur valeur va plutôt se déplacer. Hier, parler une autre langue procurait surtout un avantage informationnel. Demain, ce sera de plus en plus un avantage relationnel. On apprendra peut-être moins une langue pour traduire des mots On continuera à l'apprendre pour traduire une intention, un respect, une sensibilité, une capacité à vraiment rencontrer l'autre. L'IA nous aidera de mieux en mieux à nous comprendre. Elle ne nous dispensera pas de faire sentir à l'autre qu'il est compris. Et pour un dirigeant, cette nuance n'est pas accessoire. Elle est stratégique. C'était « Est-il encore nécessaire d'apprendre une langue ?» un texte de Jean-François Ouellet, paru le 1er avril 2026 dans la presse.
Ressources d'hébergement en dépendance. Québec retire sa subvention à la maison Carignan de Trois-Rivières. Un texte de Simon Charret, paru le 7 avril 2026 sur tvanouvelles.ca. Faute de financement de la part du gouvernement du Québec, la maison Carignan de Trois-Rivières n'acceptera plus de nouvelles personnes judiciarisées souhaitant traiter leur dépendance. Le gouvernement n'accordera plus la subvention de 26 $ par jour par personne hébergée. La directrice de la maison Carignan a pu, à la suite du reportage de TVA Nouvelles, rencontrer le ministère de la Sécurité publique et déplore le manque d'ouverture. Plusieurs ressources, évidemment, ont décidé, à la suite de la fermeture du ministère, de revoir leurs ententes de financement marginales, de ne pas signer d'engagement et ont été retirées de la liste, ce qui fait que la Mauricie-Centre du Québec, Chaudière-Appalaches, Québec et plusieurs régions sont dénuées de services pour les personnes judiciarisées, explique Valérie Piché, directrice de la maison Carignan. Le ministère aurait également dit à la directrice que le traitement des dépendances ne fait pas partie de sa mission. Il ne cadrerait pas nécessairement dans son objectif de réinsertion des ex-détenus. Donc, on retire ce financement-là. Après, on nous dit que c'est à cause d'inégalités, mais vous devriez demander du financement au ministère de la Santé et des Services sociaux. On avait discuté des coûts associés au traitement de dépendance. Il n'y a pas de gratuité, il n'y a pas d'accès universel aux services en dépendance, et le ministère ne finance qu'environ le tiers des services qui sont offerts, ajoute Mme Piché. Rappelons que la maison Carignan héberge mensuellement jusqu'à 12 personnes judiciarisées, ce qui lui permettait jusqu'à tout récemment d'empocher jusqu'à 136 000 $ annuellement pour couvrir les frais liés à l'hébergement de ces personnes. C'était « Ressources d'hébergement en dépendance, Québec retire sa subvention à la maison Carignan de Trois-Rivières », un texte de Simon Charret, paru le 7 avril 2026 sur tvanouvelles.ca.